Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat.
Les émissions Flash Bible nous entraînent à découvrir des livres de la Bible. Et aujourd'hui, on parle de l'évangile de Luc. Jacques-Daniel Rochat, bonjour.
Bonjour.
La Bible contient quatre évangiles, quatre livres qui racontent la vie de Jésus. C'est quoi la particularité de celui de Luc ?
Alors, la particularité de l'évangile de Luc, c'est un petit peu comme aujourd'hui, quand il y a un événement qui se produit, un événement important, vous avez des journalistes qui accourent avec l'ambition de faire connaître cette nouvelle dans les médias. L'évangile de Luc est un peu comme un rapport sur ce qui s'est passé. Luc ne faisait pas partie de l'équipe des disciples, mais il va nous dire sa démarche dans le premier chapitre.
Et ça commence comme ça. « Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. » Oula, c'est rigoureux, là. On sent que Luc parle de recherche.
Alors oui, Luc, c'est un petit peu comme le célèbre détective Sherlock Holmes qui prend sa loupe à la recherche de la vérité. L'énigme est intéressante, un homme est mort. Une grande foule a vu son agonie, il a été mis dans un tombeau, mais il paraît qu'il en est sorti. Étrange, étrange.
Alors, que nous raconte cet enquêteur sur ces événements bizarres et étranges ?
Alors, dans les premiers chapitres, les recherches de Luc nous font suivre les aventures étonnantes de la mère de Jean-Baptiste et aussi les aventures que va vivre la jeune Marie. Sa vie va être bouleversée par la visite d'un ange envoyé par Dieu. On peut écouter ses paroles.
L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?»
Alors la précision des paroles et des émotions qu'on trouve dans ce récit de Luc nous montre que ces écrits ont été récoltés directement auprès de ceux qui ont vécu ces choses extraordinaires. On peut imaginer Luc, en faisant son enquête, qui va interroger ces personnes. Et cette enquête de Luc va aussi nous permettre de situer précisément la date de la naissance de Jésus. Luc nous informe par exemple que cet événement, cette venue du Christ, s'accompagne de choses bizarres, comme par exemple cette visite d'un ange, cette fois-ci à des bergers, qui vont même avoir la grande peur de leur vie.
Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. »
Alors, Luc va découvrir, va collecter des histoires qui montrent qu'effectivement, quand Jésus est venu, il y a quelque chose qui s'est passé, qui va se passer même juste au niveau céleste, spirituel. Et puis ensuite, le récit de Luc nous entraîne à suivre ce nouveau-né, en particulier quand ses parents l'emmènent au temple de Jérusalem pour le consacrer. Là encore, c'est étrange parce qu'au temple de Jérusalem, il y a un homme très âgé. Il est là, il attend et quand il voit l'enfant, il est réjoui, il sait que cet enfant n'est pas comme les autres. On peut écouter ses paroles.
Siméon reçut le petit enfant Jésus dans ses bras. Il bénit Dieu et il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, un salut que tu as préparé pour tous les peuples. »
Donc il y a quelque chose qui se met en place, hein, un salut pour tous les peuples. Pourtant, c'est un petit enfant. Étrange. Et d'autres événements vont marquer l'enfance de Jésus. Mais à partir du chapitre 3, l'enquête de Luc se concentre sur les périodes décisives de la vie du Christ. Dans le chapitre 4, Luc rapporte que Jésus va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe, c'est du reste un des livres de la Bible, il ouvre ce rouleau et il va lire une parole prophétique qui est à l'intérieur de ce livre.
Et voici ce qu'il lit à ce moment-là. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »
Alors ces paroles de Jésus, ces paroles que prend Jésus tout au début de son ministère sont très importantes parce qu'elles décrivent le programme que Jésus est venu accomplir de la part de Dieu. Jésus n'invente pas quelque chose de lui-même, mais il entre à l'intérieur d'un souhait, d'une vocation qui vient de la part de Dieu. Il y a une pleine unité entre lui et son Père céleste. Et cette vocation, elle est attendue par les Juifs parce que ces paroles d'Ésaïe, ça fait plusieurs siècles qu'elles ont été prononcées. Et dans les chapitres suivants, Luc va nous faire suivre les étonnantes actions de Jésus qui vont montrer qu'effectivement, il entre pleinement dans cette vocation. Il y a des guérisons, des miracles, des paroles merveilleuses, des libérations, des yeux qui s'ouvrent. Bref, oui, Jésus va vraiment accomplir ces paroles prophétiques qui ont été annoncées à l'avance.
Ces choses que vous décrivez sont effectivement incroyables. Alors notre fameux enquêteur Luc, est-ce qu'il n'est pas surpris de tout ça quand même ?
Certainement, mais la Bible mentionne aussi que Luc avait des connaissances médicales. Donc on peut tout à fait penser que son étude de ces miracles font que ce ne sont pas imaginaires. Mais vraiment, Luc a pu collecter, il a pu voir, oui c'est vrai, probablement qu'il a interrogé aussi des gens qui avaient été guéris. Et avec toutes ces choses extraordinaires, Luc va nous donner un témoignage fiable. Il y a réellement en Jésus une force de libération et de guérison qui sort des limites habituelles de la science. En fait, même on peut dire que l'évangile n'aurait pas raison d'être si c'était simplement des manipulations ou si c'était des choses inventées. Non, Luc, s'il donne ce rapport de ces choses-là, c'est bien parce que justement elles sont extraordinaires et qu'elles sont attestées.
Donc on imagine bien qu'avec des miracles de telle sorte, Jésus, ça devient rapidement la vedette de la région.
Alors oui et non, c'est ce qui est intéressant aussi dans le récit de Luc, parce qu'il va souligner que les actions et les paroles de Jésus vont conduire les gens à faire un choix fondamental dans leur cœur. Et on voit que dans toutes les couches de la société, certains vont accueillir le Christ ou d'autres vont le rejeter. Et souvent on voit même cet écho, ils vont même se moquer de Jésus, en considérant effectivement qu'il n'est rien du tout. Et dans cet évangile, on peut observer que ce sont l'attachement au pouvoir, l'amour des richesses, les haines et les injustices qui conduisent le plus les hommes à refuser le Christ. Quand Jésus est là, quand le Christ est là, il est comme un révélateur de ce qui se passe dans le cœur des hommes. Certains l'acceptent, vont vers lui, ont soupiré toute leur vie après cette libération. Et puis d'autres, étonnamment, eh bien, ils vont voir en Jésus, alors qu'il fait pourtant des choses très bonnes, ils vont voir une menace et finalement ils vont se moquer de lui, s'écarter de lui, le rejeter.
Donc c'est, comme vous le disiez, une sorte de révélateur. Soit on l'aime, soit on le déteste.
Oui, effectivement, il y a peu de gens qui vont être au milieu. Et quand on avance dans cet évangile, on va se rendre compte que la tension augmente. Et l'enquête de Luc nous conduit inexorablement au crime. Cette fois, on arrive au centre. Et dans son rapport, Luc nous donne un récit détaillé de ce qui s'est passé. Alors le procès bidon qu'on va pouvoir suivre, procès bidon des religieux qui vont accuser Jésus de choses qui ne sont pas vraies, la cupidité d'Hérode qui va voir Jésus en s'attendant même qu'il lui donne quelque chose, de l'argent, étonnant, la foule manipulée, la lâcheté de Pilate qui va même après se laver les mains en disant bah, finalement je le mets à mort mais je m'en lave les mains, c'est pas mon problème. Et Luc soigne le détail et il va même interroger les témoins pour savoir ce qui s'est passé sur la croix.
Donc une telle enquête si fouillée, si on peut dire les choses comme ça, d'aller même sur le lieu d'une crucifixion, j'imagine que ça nécessite de la part de l'enquêteur d'avoir le cœur assez accroché parce que ça devait être dégoûtant, quoi. Du sang, de la douleur, voir quelqu'un sourire, c'est quand même atroce. Hein.
Oui, effectivement, si on se remet dans ce décor, c'est l'horreur. Hein. Aujourd'hui, on a de la peine à imaginer, mais des crucifixions, donc des temps de torture publique comme cela. Avec Luc, on va voir Jésus violenté, torturé, qui est là sur cette croix en train d'agoniser, donc dans un moment extrêmement terrible. Et ce qui est très impressionnant, c'est que Luc va nous montrer que dans ce moment-là, alors que, en tout cas moi, à la place de Jésus, j'aurais été en colère contre cette injustice, dans une violence, eh bien non, pas du tout. Jésus pardonne à ses bourreaux et à la foule. Et puis, on découvre même dans cet évangile que l'un des deux brigands, hein, Jésus a été crucifié avec deux brigands qui étaient là, qui étaient des criminels, des gens qui étaient vraiment peu recommandables, eh bien, l'un de ces brigands va profiter de ses derniers instants de vie pour parler avec Jésus. Donc là, c'est impressionnant parce que l'enquête de Luc va nous permettre de monter comme sur la croix et d'entendre ce qui s'est passé. On peut l'écouter dans le chapitre 23.
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant « Mais n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre crucifié le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc alors, on est vraiment avec eux là. Hein,
voilà, exactement. Et puis je pense que c'est des moments très forts. Là, on les lit couramment, mais on peut imaginer que ces paroles ont dû être très très dures à articuler avec la souffrance. Et puis par ce texte, par cette perception, voilà toujours l'enquêteur, le détective Luc avec sa loupe. Et finalement, il va nous faire comprendre qu'il y a préméditation. Christ n'est pas simplement le jouet de toute une machination humaine, mais au contraire, c'est délibérément qu'il a choisi de donner sa vie, de sauver, et même d'aller sauver ce meurtrier. Moi, je trouve que c'est très très fort ce moment-là. C'est peut-être là que c'est une articulation décisive pour l'histoire de l'humanité. Alors, quel mystère ! Et puis on pourrait imaginer, effectivement, c'est comme Sherlock Holmes, mais la victime pardonne et donne sa vie. Et alors, mon cher Watson, est-ce qu'on peut encore parler de crime ? Le Christ n'est-il pas plutôt venu pour sauver le monde ? Donc, à la fin de cette enquête, ça nous emmène à nous dire, mais finalement, c'est Dieu lui-même qui vient se donner, qui vient chercher ce qui est perdu.
Muni de notre loupe, on a suivi l'enquêteur Luc dans cette fabuleuse recherche sur la vie de Jésus. Comment est-ce qu'on va terminer aujourd'hui, Jacques Daniel, cette investigation biblique ?
Alors, l'homme est crédule, hein, et il est facile de lui faire croire que le Père Noël existe, par exemple, hein, surtout les enfants. C'est aussi très facile d'arnaquer les gens avec toutes sortes de trucs ou de magie. Cette crédulité doit nous rendre attentifs à la manière d'éprouver notre foi. Est-ce qu'elle repose sur du solide ou est-ce que c'est simplement une illusion ? Ça, c'est une question très importante.
Donc, ça vaut la peine de se poser la question pour soi-même, hein, quelle que soit notre foi, pas simplement reprendre la croyance de, par exemple, nos parents ou nos proches.
Oui, tout à fait. Et l'évangile de Luc avec sa loupe, hein, on l'a vu, et les autres textes de la Bible sont un moyen de revenir à la source pour découvrir et tester cette étonnante œuvre de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Et ce qui est assez excellent avec ces textes bibliques, mais avec l'évangile de Luc, c'est que le Christ nous est présenté comme un sauveur capable de transformer notre vie si nous l'accueillons. Alors c'est là qu'on peut être pragmatique, parce que si cette promesse est fausse, elle ne peut pas s'accomplir. En fait, l'évangile et certains textes de la Bible, c'est comme une formule de chimie que l'on peut vérifier en l'appliquant. Et ces paroles de l'évangile, eh bien, des centaines de millions de personnes ont cru, se sont dit « oui, c'est vrai ». Et en fait, en l'appliquant dans leur vie, ils ont pu voir cette intervention de Dieu, ce salut qui est apporté par le Christ. Et ils peuvent dire aujourd'hui, comme dans un grand écho, « oui, c'est vrai, le Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu me sauver, moi qui étais perdu ».
Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rocha. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301 Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.